Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Exactement, 8h à Nyono, Molodo et Dogofri. Vous écoutez Studio Tamani. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. SOS pour les déplacés internes de Nyono dans la région de Ségou en cette période hivernale. Leur site est inondé par les eaux de pluie. Certains d'entre eux ont télédomicile au bord de la route. Les nouveaux fonctionnaires de l'État ont débuté ce mardi leur service militaire à Ségou. Ces cadres vont suivre une formation militaire et civique avant leur déploiement dans les différents services. La construction anarchique des maisons au bord des routes constitue un problème à Bamako. Selon la mairie du district, cette pratique est interdite par les textes, mais les occupants affirment n'avoir pas le choix. Nous en parlerons dans ce journal qui sera présenté par Sikou Gadjigo, mis en nom de Mamadou Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les déplacés de Nyono dans la région de Ségou sont sans abri à cause des eaux de pluie. Les habitations sont inondées après chaque pluie, déplorent les occupants de ce site de déplacés qui abrite près de 1000 personnes réparties entre 300 ménages. Ils sollicitent l'appui des autorités et de bonne volonté. Notre envoyé spécial Moussa Malé Sissoko pour le reportage.
La saison des pluies s'annonce très difficile pour les déplacés internes de Nyono. Le site des déplacés est envahi par les eaux. La voie bouilleuse et glissante, des huttes délabrées et des céréales décomposées. Voilà ce qui caractérise les lieux. Ces déplacés après la pluie ne savent plus où mettre la tête.
Ce n'est pas facile de tenir dans ces conditions. Les eaux de pluie n'ont pas épargné nos habitats. Le peu de céréales qu'on avait ont été mouillées. Vraiment, nous souffrons.
Abdoulaye Sila est responsable des déplacés, tire la sonnette d'alarme. Il demande d'aide aux autorités et aux bonnes volontés pour abréger leurs souffrances.
On reçoit certes d'aide alimentaire, mais elle est insuffisante. Par exemple, 30 personnes pour un sac de 25 ou 50 kilos de riz. Auparavant, certains chefs de famille partaient travailler dans la ville pour gagner un peu d'argent. Avec l'hivernage, la situation se complique davantage. Nous sommes dans un calvaire. Nous demandons le soutien de tous afin de surmonter ces épreuves.
Toutefois, les autorités communales disent envisager des mesures pour déplacer le dit site vers un autre. Pour ce faire, elles entendent mobiliser les ONG en vue de réaliser ce projet. Ali Guindo, conseiller au maire de la commune urbaine de Nyono.
La direction régionale du développement social de Ségou et la mairie ont visité récemment les lieux. Nous sommes en train d'y travailler. Nous avons repéré un autre endroit à Djoukorobougou, à 6 km de Nyono. Nous prévoyons d'aménager 2 hectares. Mais à cause de la crise sécuritaire, les topographes n'ont pas pu travailler.
En attendant, certains déplacés ont installé leur tente au bord du goudron. Rappelons que ces déplacés viennent des communes de Chouala, Mariko, Kalasigida et Dogofri. De Nyono, Moussa Malé Sissoko pour Studio Tamani.
Moussa Malé Sissoko, dont vous pourrez suivre d'autres reportages dans nos prochaines éditions. Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Informer les autorités et les différents acteurs du commerce sur la hausse excessive des denrées de première nécessité, c'était l'objectif principal d'une manifestation organisée par le Front populaire contre la vie chère au Mali. Elle a eu lieu ce mardi 2 août à Bamako. Selon la présidente, un document élaboré par les militants sont soumis au chef du gouvernement pour son adoption. Écoutons Mariam Kone, présidente du Front populaire contre la vie chère au Mali. Elle est jointe au téléphone par Sita Sidibé.
L'ordre du jour aujourd'hui, c'est d'alerter la plus haute autorité sur ce qui prévaut sur les marchés, les différents marchés du Mali, parce que vraiment, bien que les embargos soient levés, les prix ne cessent d'augmenter. Bon, le deuxième objectif, c'est de présenter le schéma institutionnel pour les stratégies novatrices du plan d'action indicatif contre la vie chère au Mali. Il s'agit d'un document qui a 4 grands axes qui luttent vraiment contre la vie chère, parce que le document-là est le résultat d'une étude et des formations que le Front populaire a eu à mener pendant 4 mois pour quand même donner à la population malienne des solutions contre cette vie chère-là, parce que nous avons constaté que toutes les autres stratégies du gouvernement n'ont pas fait d'effet positif dans les affaires du Malien et de l'épargne de la ménagère. Donc il faut des stratégies novatrices pour nous sortir de là.
À l'instant, c'était Mariam Kone, présidente du Front populaire contre la vie chère au Mali. Elle était jointe par Sita Sidi Bé. Suite à la multiplication des attaques terroristes, les autorités locales à Douenzan et à Yoroso ont procédé à une réorganisation de la circulation. La mesure qui est entrée en vigueur ce lundi à Yoroso dans la région de Koutiala interdit la circulation aux véhicules et aux autres engins de 0h à 5h30 du matin à Douenzan, au centre du pays. Ce dispositif est appliqué de 18h à 6h du matin. L'objectif est, selon les responsables locaux, à réduire les risques d'attaques terroristes contre les civils et militaires. Cependant, ces dispositions sécuritaires sont diversement appréciés par les populations locales. Le point avec Juliette Koulibaly.
À Yoroso, cette mesure est intervenue après les attaques et enlèvements de véhicules survenus la semaine dernière sur le tronçon Kouri-Koutiala. Le préfet du cercle explique que seuls les véhicules des forces armées et de sécurité ainsi que les ambulances sont autorisés à circuler de 0h à 5h30. Cette décision est saluée par la population. Toutefois, elle demande aux autorités locales de l'étendre dans toute la région de Koutiala. Au centre du pays, l'interdiction annoncée depuis le 28 juillet dernier est respectée par les habitants à Douanza, rapportent des sources locales. Selon elles, cette mesure permettra de sécuriser la ville et empêchera par ailleurs le blocus de véhicules par des groupes terroristes. Cependant, à Massina, dans la région de Ségou, les commerçants ambulants et boulangers affirment que cette mesure impacte négativement leurs activités commerciales. Toutefois, à Badjangara, l'interdiction de circulation des véhicules entre Mopti et la ville adoptée depuis plus de 3 mois n'est pas respectée, affirment des sources locales.
La rentrée du 3e contingent du Service national des jeunes a eu lieu ce mardi. Elle est composée des admis à la fonction publique d'État, selon les responsables du SNJ. Cette formation de 6 mois qui se tiendra à Bafo dans la région de Ségou a pour mission fondamentale de contribuer au développement du pays. Il rappelle également que pendant la durée de ce service, le fonctionnaire ne perçoit que sa solde militaire. Adama Kouaté est le directeur adjoint du Service national des jeunes. Il est joint au téléphone par Mahaman Babakunta.
C'est une formation qui va durer 6 mois. Il y a la formation classique militaire et la formation civique. Donc, désormais, les recrues de la fonction publique de l'État passeront sous le drapeau et seront considérées comme des réservistes. S'il y a une règle à respecter, c'est les règles militaires. C'est tout. Vous apprenez le maniement des armes, l'école des soldats, tout ce qu'un soldat doit apprendre dans l'armée. Quand ils seront terminés, la formation militaire, ils seront présentés au drapeau et chacun va rejoindre son corps d'origine. Si vous êtes administrateur, vous partez faire votre administration, vous êtes docteur, vous retournerez à l'hôpital, etc., etc.
Autre sujet dans ce journal, dans les quartiers périphériques de Bamako, certaines femmes s'adonnent au commerce de pain pour les boulangeries. Une activité génératrice de revenus pour ces dames qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Néanmoins, elles affirment rencontrer beaucoup de difficultés, notamment d'ordre sécuritaire. Le reportage de Fatoumata Koudjo.
Il est 5h du matin, Nathanae Makasuba quitte Kalabankura pour une boulangerie à Ganantikibougou. Mère de 4 enfants et sans soutien, Nathanae charge un gros paquet de pain sur la tête, se promène dans la ville pour les vendre.
Je me réveille à 3h du matin pour faire tout mon travail. J'ai commencé à vendre le pain avec 10 miches, mais actuellement je vends plus de 50 miches. Je suis à la charge de toute la famille, mon mari est malade. Chaque mois, c'est moi qui paye ces médicaments.
Cette activité peut être dangereuse, notamment dans certains quartiers périphériques de Bamako. Fatoumata Damélé, aussi vendeuse de pain, affirme avoir été la cible d'un bandit.
J'ai une fois croisé un bandit. Il me dit de lui donner ce que j'ai, sinon il va me tuer. Il a fait sortir son arme pour tirer sur ma jambe.
Certains consommateurs admirent la bravoure de ces dames et soutiennent leur activité.
Même quand j'achète à la pâtisserie, je prends du pain avec ces dames, car cela peut les aider. En plus, c'est du bon pain qu'elles prennent à la boulangerie et c'est bien enveloppé dans un sac propre.
À noter qu'elles sont nombreuses, ces femmes qui mènent cette activité de vente de pain dans différents quartiers de Bamako.
À présent, le dossier de ce journal à Bamako, plusieurs maisons sont construites au bord des routes avec ou sans l'autorisation des autorités compétentes. Cependant, ces maisons construites en ces endroits n'est pas sans risque, déclarent certains experts et autorités de la mairie et de l'urbanisme. Malgré tous les dangers, les populations disent ne pas avoir le choix. Quelles sont les procédures à suivre pour avoir une autorisation de construction? Quels sont les lieux autorisés pour construire? Des éléments de réponse dans ce dossier de Ali Mayatara.
Personne n'a le droit de construire aux abords des routes. Ces mots sont de Alkassoum Amadou Meiga, deuxième adjoint au maire de la commune 4. Selon lui, ce n'est pas la mairie qui leur donne les autorisations de construire à ces endroits.
Il y a le plan d'urbanisation de tous les quartiers. Dans chaque plan, il y a les emprises des routes qui sont délimitées. Ce que la mairie donne, c'est l'occupation du domaine public. Ça, c'est une occupation temporaire qui se fait d'ailleurs avec du matériel démontable.
Face à cette situation, les populations affirment ne pas avoir le choix. Selon certains, ces concessions ou immeubles rendent la vie belle.
Ces maisons sont construites par nos parents, donc on n'a pas le choix car on n'a nulle part où aller. Quand tu as ta maison ou ton immeuble au bord du goudron, ça rend la ville belle. Si le gros porteur quitte leur route pour créer des accidents, la faute ne nous incombe pas.
Les techniciens qui assistent et participent au projet de lotissement ou de morcellement approuvé disent être également confrontés à plusieurs difficultés. Abdrahmane Kouité, chef de la subdivision de l'urbanisme de l'habitat de la commune 4.
On a une équipe qui est carrément chargée de la brigade. On fait le tour des quartiers pour voir ceux qui sont en train de construire illicitement, vérifier leur dossier.
Selon les autorités de la mairie, la construction sans autorisation est un acte punissable par la loi. Alkassoum Amadou Meiga.
Celui qui n'a pas cette autorisation de la mairie construit anarchiquement et hors la loi. Il y a des textes pour ça qui pénalisent en dehors de l'autorisation provisoire. Aucune autre autorisation ne peut être donnée sur l'emprise de la route dans les domaines publics.
Rappelons aussi que ces constructions au bord des routes sont à la base de plusieurs accidents, concluent des autorités de la circulation de la route.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves, une rencontre de restitution de l'initiative de sensibilisation sur les dangers liés à la prolifération des armes légères a eu lieu avant-hier lundi à Yelimane. Dans la région de Kaï, l'activité a été organisée par le bureau régional du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres en collaboration avec l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser la population sur les méfaits de la prolifération des armes légères et de promouvoir la résolution pacifique des conflits. La session a été financée par l'ambassade du Canada. Tous les candidats au DF à l'école de la fraternité située sur le site d'orpaillage de Dadjan dans la commune de Fourou, cercle de Kadjolo, sont admis. L'établissement fait ainsi 100% pour la deuxième année consécutive. Ils étaient 13 candidats, dont 5 filles. Le maire de la commune de Fourou a encouragé le promoteur à redoubler d'efforts afin de contribuer à lutter contre la déscolarisation des enfants sur le site d'orpaillage. À Gao, à présent, la 12e édition des cours de vacances sur l'apprentissage du Coran a été lancée la semaine dernière par l'établissement Sidi Mohamed Ould Abdallah Dina. Pendant un mois, une centaine d'enfants seront initiés à l'écriture et à la lecture du Saint-Coran. Les cours se déroulent du lundi au jeudi. Les promoteurs de l'établissement disent insister sur la discipline et l'assiduité. À 8h passées de 14 minutes, complète sur FM cette édition. Vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Mamadou Ouattara a assuré la mise en onde, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. Tout de suite, le magazine. Au cours du mois de juillet dernier, au moins deux jeunes femmes ont été assassinées à Bamako, selon des associations de défense des droits des femmes. Ces actes sont inadmissibles. Les responsables de l'association Solidaris 223 estiment que les auteurs de ces crimes doivent être sévèrement punis. Pour des sociologues, il faut qu'on revienne aux valeurs religieuses, culturelles et sociétales. Retour sur quelques parties du tout sous grain du week-end dernier du studio Tamani avec Ousmane Nialibouli.
Selon Solidaris 223, pour trouver des solutions, ces actes de violence ne doivent pas rester impunis. Ces responsables estiment que les lois doivent être appliquées sur les personnes déclarées coupables. Amina Diko, présidente de Solidaris 223.
Nous voulons que les décideurs nous aident à mettre fin à ces atrocités. Il y a un avant-projet de loi qui est sur la table depuis un certain temps, qui a été rejeté par nos papas religieux. Il faut qu'il y ait une loi et que ces gens-là soient punis, parce que tu ne peux pas tuer un être humain. On t'enferme 4 ans, on te fait sortir. Peut-être toi, tu oublies ton crime, mais les parents n'oublieront jamais. Les enfants n'oublieront jamais. Nous disons aux parents de revoir l'éducation des enfants. Nous faisons face à des unions, des jeunes couples, des enfants qui ont à peine 18 ou 20 ans. Il ne suffit pas d'avoir les moyens pour faire marier ses enfants. Il faut au moins se responsabiliser l'enfant avant qu'il ne fonde un foyer.
Korotumu Bagayogo, animatrice à radio, partage le même avis. Selon elle, les leaders religieux et traditionnels ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle ajoute aussi que les jeunes filles et garçons doivent être préparés au mariage.
Ces leaders religieux et chefs traditionnels-là, ils sont là pour leur population. Et ces populations-là, leurs femmes, leurs filles, meurent des mères de leurs enfants encore. Donc, ils font quoi? Qu'ils nous aident, qu'ils sensibilisent les populations qui sont derrière eux, qui écoutent leurs prêches, qui leur disent là que ceux qui vont tuer là seront dans l'enfer et qu'il n'y a pas d'échappatoire.
On doit revoir l'éducation. On doit préparer les deux époux au mariage. On doit réellement connaître c'est quoi le mariage. Le mariage, c'est pas pour rendre esclave, la femme ou autre chose. Le mariage, c'est pour que deux personnes vivent le reste de leur vie ensemble, vivre heureux ensemble et tout ce qui va avec.
Les sociologues préconisent le respect mutuel au sein du couple pour éviter les violences. Ils estiment que les recours à nos valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses pourraient également prévenir les violences dans les foyers. Alfousseine Guindo, sociologue.
On peut ne pas même arriver à ce que l'homme violente sa femme ou que la femme violente son homme. Sur le plan émotif, autant sur le plan parole que sur le plan même physique. Qu'est-ce qui explique cela? Il faudrait qu'on se respecte. Et montre-moi un seul couple, un seul foyer où l'homme et la femme se sont tiraillés et que ce n'est pas l'homme qui a manqué soit son obligation, son devoir ou que la femme qui a manqué à son rôle à jouer. Donc que cela cesse dans nos couples. Dès que cela cessera, il n'y aura plus de problèmes. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de recourir à la loi moderne pour empêcher ces problèmes-là. Hein. Moi, je dirais, mais faisons recours à nos valeurs religieuses et à nos valeurs culturelles. Et vous verrez que ce problème va finir. Et qu'est-ce que disent ces valeurs? Femme, tu dois respect et obéissance à ton mari. Mari, tu dois protection et obéissance à ta femme. Point barre.
À noter que sociologue et défenseur des droits des femmes, ils sont tous unanimes sur l'application des textes relatifs aux droits des femmes.